Monsieur Slobodan Despot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et éditeur, et vous tracez aujourd'hui sur le blog du Figaro un parallèle assez important entre la crise qu'a pu connaître votre pays d'origine il y a quelques décennies déjà et celle que connaît l'Ukraine aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Alors, on en connaît tous, on a tous en mémoire le mouvement Otpor, qui veut dire, je crois, résistance en
Oui.
serbe, et qui, avec l'aide des États-Unis et, disons, diverses sphères d'influence, était parvenu à une révolution douce pour renverser le régime qui était en place alors.
Oui, en effet. Ça s'est passé d'ailleurs, je crois, sans effusion de sang, ou pratiquement. En tout cas, il n'y avait pas eu de mort à Belgrade en 2000. Et les dirigeants du mouvement Otpor, qu'à l'époque, personnellement, je soutenais, n'ont pas fait mystère par la suite de leur formation ni de leur appui du côté des États-Unis. Et même, on a pu étudier depuis les origines, disons, stratégiques et idéologiques de leur action, qui ont été formulées, qui ont été codifiées par des think tanks américains sur la base de travaux d'universitaires tels que Gene Sharp sur la révolution non violente.
Il y a cet ouvrage, La dictature à la démocratie. On a l'impression qu'il y a un programme assez simple, assez efficace, qui est appliqué dans tous les anciens pays du bloc de l'Est qui seraient encore un petit peu resnoulius et qui seraient éventuellement encore à prendre. Est-ce qu'on assiste vraiment à une opération qui va du croissant méditerranéen jusqu'aux portes de la Russie pour, ma foi, asseoir un pouvoir atlantiste qui irait du Brésil jusqu'à l'Ukraine.
Alors, effectivement, vous faites bien de mentionner le Brésil, puisque juste à côté, il y a le Venezuela, où une révolution, ou plutôt où des troubles exactement du même modèle sont en train de se produire contre le gouvernement en place. C'est quelque chose qui n'a pas de frontières, si j'ose dire. D'autre part, si vous regardez la carte des pays qui ont fait l'objet de renversements de régimes violents ou de guerres, de bombardements ces dernières années, depuis la chute du mur de Berlin, vous observerez que jusqu'au cas de l'Ukraine, c'était à chaque fois des pays qui avaient autrefois fait partie du bloc des non-alignés, c'est-à-dire qui étaient en quelque sorte sur la périphérie de l'Empire russe, de l'Empire soviétique, ou qui essayaient, plus ou moins sincèrement, de se maintenir sur un cours qui était, disons, entre les deux blocs. C'était en tout cas le cas de la Yougoslavie. La Yougoslavie a été un des trois pays fondateurs du mouvement non-aligné avec l'Égypte et l'Inde de l'époque, de Nehru. La Yougoslavie a été le premier pays émietté, détruit, avec l'assentiment, l'appui et même l'intervention militaire de l'OTAN dans les années 90. Depuis, on a eu la Libye, pays non aligné, on a eu l'Afghanistan, pays non aligné, on a eu l'Irak, on a la Syrie, non alignée, on a l'Iran, non aligné, qui est en ligne de mire, disons. Donc, on voit très bien qu'il y a une logique géopolitique dans ces événements qui, en apparence, ne semblent pas reliés entre eux.
Dans l'exemple serbe, il y a quand même ce que Bernard-Henri Lévy appelle les avions de la liberté. Ça n'a pas été qu'une
Oui.
révolution non violente.
Ah non, bien sûr, non. La Yougoslavie a été une révolution. D'abord, il y a eu plusieurs guerres et plusieurs conflits qui, chacun avait son contexte et son modèle. Mais la première des insurrections contre l'État yougoslave, si vous vous en souvenez, celle dont on a eu connaissance, en tout cas en Occident, après la chute du mur de Berlin, c'était celle de la Slovénie, où déjà on a employé comment dirais-je, des procédés de manipulation de l'opinion qui étaient analogues à ceux qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, notamment la mise en scène d'un mouvement civique de type démocratique, un peu bobo, type démocratique pro-européen, contre une puissance qu'on décrit d'emblée corrompue, comme corrompue, brutale, etc. Et en même temps qu'on se pose en résistant non violent, en résistant civique et citoyen, comme on dit aujourd'hui, contre l'arbitraire et la brutalité policière, en même temps, on fait le nécessaire pour que le pouvoir qu'on combat verse le sang. En Slovénie, on a commencé par abattre dans le dos 60 recrues de l'armée populaire yougoslave qui n'étaient pas armées. À ce moment-là, l'armée était bien obligée de mettre les tanks dans les rues et donc d'illustrer la thèse selon laquelle les citoyens slovènes désarmés se battaient contre une armée qui leur tirait dessus au canon. Donc, on a eu à peu de choses près, le même scénario sur la place de Maïdan à Kiev, c'est-à-dire que dès d'emblée, les manifestants avaient opté à la fois pour un langage de paix ou de revendication démocratique et pour une action violente qui, évidemment, met le pouvoir en état de schizophrénie, c'est-à-dire soit on démontre qu'on n'est pas aussi violent que le dit la partie adverse et on se laisse submerger par la violence, soit on résiste et à ce moment-là, on démontre que la partie adverse a raison.
Voilà, effectivement, cette fabrication d'un épisode violent n'est pas sans rappeler l'épisode des attaques au gaz avortées, si je puis dire, dans la banlieue de Damas, en Syrie,
En
il y a
effet,
quelques
oui.
mois. Alors évidemment, dans le modèle syrien, il semble que la Russie ait plutôt bien résisté en raison d'un réel soutien populaire.
Oui.
Et là, dans le cas ukrainien, on a l'impression qu'il y a quand même de la population des deux côtés.
Alors, évidemment, d'abord, en Syrie, on s'est rendu compte, même en Occident, et dire, c'est dire s'il a fallu que l'affaire soit grossière, parce que en Occident, en général, les
Pas
médias
grand-chose.
occidentaux sont les derniers à se rendre compte de la réalité sur le terrain de ce qui se passe dans le monde. Mais en Syrie, on a effectivement une situation où une très 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 grande majorité de la population n'est pas forcément partisane de la famille Assad, mais en tout cas craint beaucoup les djihadistes qui s'opposent au régime d'Assad et qui menacent d'instaurer la loi islamique la plus violente dans le pays. Donc là, on a fini par déchanter et aujourd'hui, plus personne de sérieux ne peut soutenir, sauf peut-être Monsieur Bernard Lévy, plus personne de sérieux ne peut soutenir la cause des djihadistes syriens. Donc, à partir du moment où la Syrie a été, je veux dire, a résisté, à partir du moment où le renversement syrien n'a pas pu avoir lieu, on s'est reporté ailleurs.
Alors effectivement, vous releviez quand même une particularité de calendrier, c'est que ce renversement du régime ukrainien s'est fait la veille de la clôture des Jeux.
Oui, enfin, disons que la partie active et violente des manifestations avait lieu pendant le déroulement des Jeux Olympiques de Sochi. Et on a l'impression, peut-être que là, c'est peut-être un hasard pur, qu'il y avait un agenda imposant que la chose soit réglée dans un sens ou dans l'autre avant la fin des Jeux Olympiques, parce que une fois les Jeux de Sochi passés, la Russie, et Vladimir Poutine et son état-major auraient les mains libres pour agir de leur côté, alors que durant, évidemment, le déroulement des Jeux, la Russie devait respecter la trêve olympique, puisque les Jeux olympiques existent pour, soi-disant, pour imposer une pause dans les conflits. Donc je ne vois pas comment la Russie aurait pu réagir diplomatiquement ou militairement face à la déstabilisation d'un pays voisin au moment même où elle est l'hôte des Jeux. Mais l'antécédent, c'est évidemment les Jeux olympiques de Pékin en 2008, puisque là déjà, le président Poutine a dû quitter la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin pour commander la réaction militaire russe face à l'invasion de l'Ossétie du Sud par la Géorgie, qui, je vous le rappelle, était dans cette opération appuyée par l'OTAN.
Oui, alors effectivement, la plupart des spécialistes autorisés sur la question parlent d'une partition de l'Ukraine. Apparemment, une solution fédérale semble impossible entre les deux courants linguistiques. Hein, ça, ce qui désole les Suisses, évidemment. Est-ce que vous pensez qu'on arrive à présent vers une issue à la Yougoslave, c'est-à-dire des guerres larvées pendant un certain temps et ensuite rien de satisfaisant pendant très longtemps?
À mon avis, c'est malheureusement la perspective qui guette l'Ukraine. Je dis bien malheureusement parce que on se rend compte aujourd'hui, j'ai d'ailleurs publié même un livre là-dessus, combien la partition de la Yougoslavie a fait régresser sur le plan économique, culturel, politique, tous les peuples qui composaient ce pays. Objectivement, pour la vie des populations, pour la vie quotidienne et même pour la satisfaction d'amour-propre, je n'ai pas l'impression que toutes ces populations soient très heureuses dans la situation où elles vivent aujourd'hui. En tout cas, ce sont des États qui n'ont pas de souveraineté. Aucun d'entre eux n'a de souveraineté. Tous ces États obéissent soit à l'Europe, soit aux États-Unis. Ensuite, on voit l'Union européenne qui, après avoir contribué au démantèlement de la Yougoslavie en une poussière de micro-États, est en train de les intégrer un par un, en laissant les autres de côté, selon des critères qui sont extrêmement, au fond, insultants et offensants pour ceux qui sont laissés de côté. Mais ça, évidemment, en Europe, on ne se rend pas compte du tout. Et je dirais même que si l'Union européenne avait été cohérente avec ses propres principes, et si elle avait eu le rôle de stabilisateur et de pacificateur qu'elle revendique sur le continent européen, elle eût intégré la Yougoslavie en bloc dès les années 1990-91, au moment où ce pays menaçait d'éclater, plutôt que de contribuer à le faire éclater.
Voilà, effectivement, on apprend à l'instant que les troupes russes apparemment sont rentrées sur le territoire ukrainien en direction de la Crimée. La Crimée qui est une base navale très importante sur la mer Noire. Il est apparemment plus qu'évident que la Russie ne lâchera pas cette base navale comme elle n'a pas lâché Tortose en Syrie. Est-ce que l'Union européenne, en voulant servir les plats des États-Unis, ne s'est pas finalement ménagé une zone de guerre pour un long moment à ses propres frontières?
Ben écoutez, je pense qu'on n'a pas suffisamment analysé ce fait. Mais la déstabilisation du sud-est européen par le conflit yougoslave sur une période allant de 1991 à 1999 a certainement, sans aucun doute, contribué à la crise économique que connaît l'Europe aujourd'hui. Je veux dire, on ne peut pas impunément alimenter un foyer de conflit, financer à tour de bras une faction contre l'autre, bloquer les voies de communication fluviale, maritime, routière entre l'Europe et le Moyen-Orient, se laisser imposer des solutions qui ne sont en tout cas pas dans l'intérêt de l'Europe, et notamment se faire évincer des marchés de reconstruction dans ces pays, et puis, comment dirais-je, en sortir prospère. Donc, le cas yougoslave montre que l'Europe n'a pas agi pour ses intérêts. En l'occurrence, elle a agi pour des intérêts qui sont très clairement ceux des États-Unis et au début ceux de l'Allemagne, pour des raisons historiques et pour des raisons d'alliance anciennes. Cette fois-ci, de nouveau, l'Union européenne va agir pour les intérêts des Américains et s'ouvrir un front qui sera vraiment très 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 difficile à colmater. L'Ukraine, c'est pas la Serbie, c'est pas la Yougoslavie. La Yougoslavie, c'était un pays qui était la moitié de la France avec 25 millions d'habitants. L'Ukraine, c'est 45 millions d'habitants et je ne sais pas combien de fois la France. Et en plus, surtout, la Yougoslavie n'avait pas d'alliés. La partie, disons, serbe ne pouvait compter que sur la Russie de Yeltsin, qui était totalement affaiblie. Aujourd'hui, la Russie de Poutine, qui est extrêmement active sur le plan diplomatique et militaire, soutient une partie, enfin je veux dire la partie légitimiste de l'Ukraine, elle ne la lâchera pas, elle n'a aucun intérêt géostratégique à la lâcher, c'est même vital pour elle qu'elle ne la lâche pas. Donc on va droit à une confrontation de blocs qui risque d'être militaire.
Alors, on a parlé de ce plan de reconquête justement des pays non alignés. On a vu cette stratégie qui va, mon Dieu, du Maroc en passant par la Tunisie jusqu'en Syrie, jusqu'en Afghanistan, jusqu'en Ukraine maintenant. Est-ce que, si on pousse l'idée un peu plus loin, la Suisse, avec les déboires qu'elle a connus au niveau fiscal, économique, bancaire ces dernières années, notamment confrontée à l'Union européenne, est-ce que la Suisse n'a pas été victime d'une forme de plan similaire?
Alors, il y a une chose qui me frappe dans ce qui s'est passé en Suisse, c'est qu'effectivement, on a subi en quelque sorte en Suisse l'équivalent financier et diplomatique de ce que d'autres pays ont subi sur un plan géostratégique. Ce qui est très décevant et préoccupant, c'est qu'une partie de l'opinion en Suisse semble accepter cette destruction de sa place financière comme, j'allais dire, un hasard climatique, comme si tout d'un coup ben, un tsunami avait fondu sur le pays, puis ma foi, on a détruit la moitié d'une économie, et puis ma foi, il faut la reconstruire. Ce n'est pas vrai. Il y a une intention, il y a la volonté de prendre le contrôle de la place financière suisse. Il y a une arrogance et un abus de pouvoir qui sont constants, et il y a, ce qui est surprenant, il y a une coopération totale de la victime avec l'agresseur, en tout cas de ses représentants officiels. Donc, si on se demande pourquoi un tout petit pays comme l'Islande a pu résister à l'OPA sur son système bancaire et pas la Suisse, qui est infiniment plus puissante. C'est vrai que c'est préoccupant et ça me rappelle que il y a bien longtemps, dans les années 90, on avait publié aux éditions L'Âge d'Homme un livre de l'historien militaire Bernard Wicht qui avait contesté le plan Armée 21 dont on discutait beaucoup à l'époque, en faisant observer, déjà à l'époque, que s'il y avait une menace qui pesait sur la Suisse dans les années 90, 80-90, 2000, et qui pouvait éventuellement se transformer en une menace militaire avec un blocus, elle venait non pas de l'Est, mais de l'Ouest. Et vous vous souvenez qu'à un moment donné, les États-Unis ont menacé la Suisse de très très graves sanctions si elle n'obtempérait pas. Donc, je crois qu'il y a une mésestimation de la situation internationale, qu'il y a une très grande difficulté à identifier l'adversaire. Ce n'est pas un ennemi dans l'absolu, c'est simplement que les intérêts actuels de la puissance atlantique des États-Unis, qui sont eux-mêmes en crise, eh ben, ils entrent en collision avec les intérêts de la plupart des États européens. Et cette mésestimation et cette naïveté font qu'en Suisse, on a l'air de découvrir la réalité du monde chaque jour sans rien faire.
Slobodan Despot, nous vous remercions d'avoir répondu aux questions des observateurs.